C'est toujours un plaisir de vous voir, attentif. Merci de la présence de chacun. Merci aux techniciens, aux musiciens. Alors peut-être que vous avez repéré qu'il y a une nouvelle musicienne. Merci Laura. Et nous sommes heureux d'être ensemble, c'est un privilège. Mais vous savez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des guerres, des persécutions, des malades. Et je propose que nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes privilégiés. Nous sommes ici en toute liberté. Et nous te sommes vraiment reconnaissants. Mais nous voulons t'apporter tous ceux qui souffrent, et en particulier tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, et aujourd'hui à cause de la guerre. Seigneur, nous t'apportons tous les dirigeants, donne-leur la sagesse, et nous t'apportons tous ceux qui souffrent, apporte-leur tes consolations. Seigneur, nous présentons maintenant devant toi, à l'écoute de ta parole. Fortifie chacun, nourris-nous par ta parole, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je sais où vit Dieu. Il habite dans le bois, là, juste à côté de la maison. C'est ce que déclarait un petit garçon à sa grand-mère après que son grand-père l'ait emmené promener dans la forêt à côté de chez eux. Il lui avait dit « Même si on ne peut pas voir Dieu, on peut voir les choses qu'il a faites. » Et il avait ajouté « Tu vois, les animaux, les arbres, la forêt, la rivière, tout ça, ce sont des traces que Dieu a laissées pour savoir qu'il est là et que c'est lui qui a fait toutes ces choses. Dieu, vous le connaissez ou pas? Où habite-t-il? Comme à son habitude. Voilà, merci. Où habite-t-il? La question a probablement de quoi surprendre. Et vous pensez certainement à ce que déclarait Salomon lors de l'inauguration du temple, dans 1 Roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Le 28 mai, c'était le dimanche de Pentecôte. Et nous avons pu méditer sur les événements survenus lors de la fête de Pentecôte à Jérusalem, après que Jésus ait déclaré à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent, en ajoutant que s'ils ne partaient pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Oui, Jésus avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. C'est ce que nous rapporte l'apôtre Jean au chapitre 14, à partir des versets 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et aussi par Luc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il, c'est-à-dire Jésus, leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et cette parole s'adressait aux 120 disciples mentionnés dans Actes 1, verset 15. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Récit mentionné dans Actes 1 et 2. Les disciples furent transformés, et purent accomplir la mission qui leur était confiée, à savoir « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'était à Pentecôte. Et maintenant, dans la suite de ce qui s'est passé à Pentecôte, à Jérusalem, je vous propose de nous arrêter sur les effets du Saint-Esprit pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Après le discours de Pierre, qui a suivi les événements extraordinaires de la venue du Saint-Esprit, 3000 personnes ont cru et se furent baptisées. Ainsi, ce fut le début de l'Église de Jésus-Christ à laquelle nous appartenons ici et maintenant. Comme ces 3000 personnes, nous avons compris l'œuvre du Christ et accepté son salut. Nous nous sommes repentis, nous avons pris la décision d'abandonner notre ancienne nature, notre manière de vivre sans Dieu, pour nous tourner vers lui. Nous avons décidé de lui obéir pour accomplir sa volonté et nous laisser transformer par l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira à Timothée, de Timothée 1,14, « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Ainsi, le Saint-Esprit habite en nous. Comment recevez-vous cette déclaration ? Le Saint-Esprit, une force active ou plus ? Alors Dieu habiterait chez moi ? Reprenons la lecture de Jean 14, à partir du verset 15, on le reprend. Il s'agit du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. » Et nous établirons notre domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez noté que dans le discours de Jésus, l'Esprit représente Dieu dans toute sa plénitude, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous chantons parfois « Trouver dans ma vie ta présence ». Comment discerner la présence de Dieu dans nos vies ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Prenez une feuille, vous avez 4 heures. Plus sérieusement, quelle perception avons-nous de la présence de Dieu en nous ? Pour les uns, ce serait peut-être des sentiments émotionnels, pour d'autres, des expériences précises, des réponses à des prières. Pour d'autres encore, la présence des frères et des sœurs, la présence de son Église, tout ce qui nous unit en lui, sa communion, ou la communion avec la nature, peut-être, que sais-je. Dans ce cas, on parle de notre perception. Mais dans la perspective du texte que nous avons lu, c'est du côté de Jésus, de sa perception à lui qu'il s'agit. Et Jésus, dans sa perspective, parle de la présence de Dieu comme d'une habitation. Comment est-ce possible ? Comment ce Dieu des cieux, que rien ne peut contenir, habiterait-il en nous ? Jésus prépare ses disciples à son départ. Et il le fait en précisant son identité divine. « Je suis dans le Père » pour dire qu'il est plus grand que ce qu'ils avaient perçu quand il était à côté d'eux. Et cela dans la perspective du ciel. Il vient dans leur vie, dans nos vies, tout proche. Ce Dieu de l'infini qui vient vers nous, il nous dit « Je veux venir vers toi. Je veux venir chez toi. » Il nous faut rester sensibles à cet amour de Dieu. Ce Dieu de l'infini qui s'approche de nous personnellement, ce n'est pas possible. C'est trop. C'est vertigineux. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Puisque Dieu habite en nous, qu'est-ce que cela implique ? Mais d'abord un partage. Passer ce sentiment vertigineux, ce mouvement d'amour de Dieu vers nous, nous devons réaliser que le fait d'habiter chez nous signifie que nous devons partager notre habitation. L'hospitalité, notamment en Orient, est un principe sacré et la Bible nous propose plusieurs exemples. Partager la même table est un principe sacré et Jésus, en mangeant avec des personnes que la société a rejetées, a montré que Dieu les aimait et que Dieu les accueillait. À combien plus forte raison nous devons d'accueillir celui-même dont on n'osait pas prononcer le nom, tellement il est grand et glorieux. Dieu veut établir un lien personnel, fort, avec nous. Jésus ne parle pas de visite. Mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. D'après le contexte, C'est l'Esprit de Dieu qui actualise, qui manifeste cette présence du Père et du Fils. Vous avez remarqué ce mouvement que Jésus décrit pour parler de la présence de Dieu. Nous viendrons. Nous viendrons. Ce qui signifie que Dieu se mobilise d'une manière spécifique pour venir vers chacun et chacune de ceux et celles qu'il aime. Pour parler de la présence de Dieu en nous, certains pensent qu'il est en nous parce qu'il est l'objet de nos pensées. Il y a donc habitation en nous parce qu'il est l'objet de notre amour et de nos pensées. Et donc, dans ce cas, Dieu n'a pas bougé, mais c'est l'homme qui s'ouvre vers lui. Le langage de Jésus est beaucoup plus fort que cela. Il parle d'une mobilisation active de Dieu vers nous. Nous viendrons. Il se rend présent pour s'unir à ceux qu'il aime et demeurer avec et chez eux. Puisque Dieu habite en nous, qu'est-ce que cela implique ? La permanence de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un pour l'équiper pour une mission particulière à accomplir. Mais ici, lorsque Jésus parle de demeurer, ce n'est pas pour équiper quelqu'un pour une mission particulière, mais pour s'unir au plus intime de notre personne et au plus près de notre vécu. Habiter ensemble, c'est pouvoir tout partager dans la confiance. Oui, dans la confiance. À l'intérieur de la maison, on est plus naturel, plus vrai, plus authentique. On a cette liberté que nous n'avons pas à l'extérieur, où il y a des conventions à respecter et peut-être même un rôle à jouer. Dieu veut nous rencontrer et vivre avec nous dans cette liberté, dans cette quotidienneté. Nous pouvons, et c'est ce qu'il veut, lui dire tout ce qui est fait notre vie, nos joies et nos soucis. Gardons toutefois le sens des valeurs, Dieu est Dieu. Puisqu'il habite en nous, qu'est-ce que cela implique ? Une union pour la vie. Vivre ensemble, c'est aussi se déclarer uni avec celles ou celui avec qui on se trouve. Uni envers et contre tout, dans les bons et dans les mauvais jours. Et lorsque Jésus déclare qu'ils viendront établir leur demeure chez nous, il exprime cette volonté d'union que Dieu veut établir dans la durée. Ce sont les expériences, les choses fortes vécues ensemble dans la durée qui consolident les liens. Et c'est aussi une solidarité. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit-il à ses disciples avant son ascension. C'est ce qu'il déclare aussi en demeurant chez nous. Il partagera nos choix de vie, même s'ils ne sont pas les meilleurs, et des moments qui ne seront pas toujours agréables et joyeux. Nous demeurerons. C'est une autre manière de dire on ne quittera pas le navire en cas de mauvais temps. Faire sa demeure, cela veut dire rester même si la direction que nous prenons n'est pas la bonne et que nous sommes en difficulté. Prenons conscience que ce ne doit pas être la fête tous les jours pour Dieu dans nos vies. Vous ne croyez pas ? Puisque Dieu habite en nous, qu'est-ce que cela implique ? Bien sûr, un encouragement. Un encouragement en disant « Nous demeurerons en lui », Jésus affirme un lien dans la durée structurant et rassurant. Prenons l'exemple, par exemple, de Zachée, ce collecteur d'impôts. Mieux, chef des collecteurs d'impôts, un collabo, qui monte dans un arbre pour voir passer Jésus. Et voilà que Jésus s'arrête devant lui et lui dit, devant tout le monde, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie, ce qui a provoqué d'ailleurs un mouvement de mécontentement du peuple. Mais quoi ? Il est allé loger chez un homme pécheur ? Et après que Zachée s'engage à réparer les torts qu'il a occasionnés, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Après une telle rencontre, on ne peut plus être le même. On compte pour le Seigneur. Quel encouragement! Puisque Dieu habite en nous, qu'est-ce que cela implique de vivre en harmonie? L'Esprit de Dieu n'est pas seulement une force qui nous anime, mais une personne avec une sensibilité, des aspirations qui se réjouit ou qui est attristée. Il y a des choses qu'il aime et des choses qui lui font mal. Lorsque nous disons que l'Esprit habite en nous, nous devons réaliser que l'Esprit est une personne au même titre que le Père et le Fils. Il habite avec nous, dans notre maison. Encore faut-il savoir la place qu'on lui laisse. Nous sommes libres, et l'apôtre Paul le souligne souvent. Dans de nombreux textes, il parle de cette liberté qui nous permet de vivre soit selon la chair ou soit selon l'esprit. Nous ne sommes plus esclaves des forces du mal. Et nous avons désormais la force de faire triompher les vraies valeurs, l'amour, la paix, la vérité, la justice. Quand on vit ensemble dans l'harmonie et la confiance, dans le partage, le soutien, la solidarité, on vit la joie d'être ensemble, et c'est merveilleux. Et quand ces bienfaits ne sont plus, ils sont remplacés par la solitude, après un décès par exemple, ou à cause de situations conflictuelles, la persécution ou que sais-je, on réalise combien ces moments étaient merveilleux, précieux, et là on est bien triste. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne partageons plus rien avec le Saint-Esprit et qu'on le laisse de côté. Le Nouveau Testament nous demande de ne pas l'attrister, Éphésiens 4, verset 20, de ne pas l'éteindre, 1 Thessaloniciens 5, 19, en lui laissant si peu de place qu'il ne puisse plus s'exprimer. Mais on ne trouve rien qui nous laisse penser que le Saint-Esprit nous quitte. Il demeure, même s'il est mis de côté, et même s'il a mal. Cette réalité doit nous saisir, peut-être pour nous ressaisir. Nous sommes confondus par ce Dieu d'amour qui a choisi de venir vers nous et de demeurer même si nous ne sommes pas à la hauteur de ses attentes. Que faisons-lui de lui ? Que faisons-nous de lui dans notre maison ? Quelle est sa place ? La perspective que nous donne l'apôtre Paul est de lui offrir un temple, un lieu où il soit bien, honoré dans notre vie. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous mesurons mieux ce que peut signifier maintenant cette démarche de Dieu vers nous. Lorsqu'il dit en parlant de lui, de ce qu'il aime, nous viendrons vers lui et nous demeurerons chez lui. Il frappe à notre porte. Ouvrons-lui tout grand notre maison et partageons notre vie avec lui. Demandons-lui de renouveler notre intelligence pour accomplir sa volonté, pour qu'il se sente bien chez nous. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul nous invite à ne plus vivre selon la chair ou selon notre nature propre, autrement dit sans Dieu, mais à vivre selon l'Esprit de Dieu. Il faut choisir. Vivre selon notre nature propre, pour l'apôtre Paul, c'est vivre sans Dieu, vivre avec nos seules forces, nos propres forces, enfermés dans les limites de l'intelligence et des forces humaines, influencés par le monde qui a rejeté Dieu. Et cela mène à la mort. Avant sa conversion, Paul appliquait des quantités de règles morales et religieuses avec beaucoup de fidélité et de zèle. Mais l'Esprit de Christ n'était pas en lui. Il vivait encore sous l'emprise de la chair. Et cela pouvait l'amener à la violence et au meurtre, avec la meilleure foi du monde. Désormais, sa vie entière est inspirée par l'Esprit du Christ, jusqu'à pouvoir dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Je posais tout à l'heure la question de savoir comment discerner la présence de Dieu en nous. Vous savez que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Alors, je vous propose de revenir au fruit de l'esprit que l'apôtre Paul décrit dans Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous vous reconnaissez? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Vous aimez Dieu? Vous aimez sa parole? Alors le Père Céleste vous aime. Père, Fils et Saint-Esprit habitent en vous. Quand on aime quelqu'un, on est attentif à ses attentes et on veut lui faire plaisir. Faisons de même avec le Saint-Esprit. Comme Pierre, à qui Jésus demandait s'il l'aimait, répondons, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Dieu habite en moi, certes, mais je ne suis certainement pas à la hauteur de ses attentes. Mais je veux qu'il soit bien chez moi. Et vous, voulez-vous qu'il soit bien chez vous? Je vous invite à un temps de réflexion pour répondre à cette question pendant un court moment musical.